Bonjour à tous, je suis Patrick Sauce, éditorialiste international à BFM TV. Je vous invite aujourd'hui à prendre le train. Le réseau ferroviaire russe est l'un des plus grands du monde et les distances sont si grandes que la conversation vient naturellement avec vos voisins de compartiment. Une bonne occasion pour chacun de dévoiler un peu du fond de sa pensée. Montez à bord et bienvenue dans l'œil de Moscou. Et comme chaque semaine, nous sommes avec le correspondant de BFM TV à Moscou, Paul Gogo. Salut Paul.
Salut Patrick.
Alors dans le précédent épisode, tu nous racontais ta semaine de reportage à Mariupol. C'était vraiment passionnant, mais tu m'avais dit, tu sais, j'ai également des tas de choses à te raconter sur mon voyage en train pour aller et revenir de Mariupol. Eh bien, on va y aller. C'est vrai qu'il y a, quelque chose de vraiment mythique dans l'évocation des trains russes. On pense évidemment aux transsibériens, mais le réseau public, il s'étend sur 86 000 kilomètres. J'ai regardé, c'est le triple du réseau français qui est déjà bien dense. Et comme je le disais en introduction, les distances, elles sont vraiment propices à la conversation, évidemment à condition de parler le russe comme tu le fais. Mais justement, je voudrais déjà, avant même de rentrer dans le fond de tes conversations, que tu nous expliques le décor. On n'est pas dans Corto Maltese en Sibérie, avec le train blindé, les cosaques moustachus et le samovar fumant. Non, tu es dans un compartiment. Raconte-nous.
Effectivement, alors il y a trois types de compartiments, on va dire, trois façons de voyager dans les trains russes. Il y a la façon luxe, un peu, avec deux lits qui coûtent généralement très très cher. La façon, on va dire, moyenne, que les Russes essaient de réserver, celle avec quatre lits, quatre places fermées dans un compartiment. Et puis la façon la moins chère, pour quelques centaines de roubles, on peut faire des centaines et des centaines de kilomètres place carte. Donc on est à 6 dans des wagons qui sont en fait pas fermés, donc c'est assez fatigant d'y voyager, mais on y voyage pour pas cher. Et donc il y a encore tout ce cérémonial quand on voyage en train aujourd'hui, avec cette hôtesse ou hôte qui attend à l'entrée du train, qui vous accueille, qui vérifie vos passeports et puis qui vous installe dans le train, qui vient revérifier vos passeports quelques minutes après le départ en vous expliquant où se trouvent les toilettes, toute la nourriture qu'on peut lui acheter, tous les bibelots qu'on peut lui acheter, et notamment de nos jours des bibelots liés à la guerre, des petits porte-clés Z qu'on peut acheter pendant nos voyages, et puis cette espèce de samovar qui effectivement existe toujours, alimenté au charbon.
Ah, on n'est plus dans Corto Maltese, mais le samovar existe. Moi, je l'ai encore expérimenté dans les trains ukrainiens.
Bah exactement, mais de toute façon, je crois que les trains ukrainiens et russes sont encore très similaires, parce que je crois que ces trois classes existent encore dans les trains ukrainiens aussi. Et effectivement, il y a ce samovar à l'entrée, alimenté au charbon parfois. Alors des fois, tu as des tas de charbon qui traînent dans l'entrée du wagon. Donc il y a encore tout ça qui existe, il y a encore les wagons restaurants. Et pour tout te dire, moi, les wagons restaurants, je n'y vais plus parce que, en fait, dans les trains aujourd'hui en Russie, il y a énormément de soldats. Les soldats peuvent voyager plus facilement. Ils ont des facilités pour réserver leurs billets, pour pouvoir profiter au maximum de leur permission. Et donc, il y a énormément de soldats. Et le restaurant, c'est l'endroit où les soldats sont totalement alcoolisés, parfois dangereux. Donc, les gens évitent un peu les restaurants, les wagons restaurants de nos jours, parce qu'on peut faire des rencontres plus ou moins agréables et ça se finit assez régulièrement en bagarre. Donc c'est voilà, ça casse un peu l'image, on va dire, le mythe des trains à la russe, parce que de nos jours, il y a de toute façon, que ce soit dans les wagons ou restaurants ou dans votre wagon, beaucoup de risques de vous retrouver avec un soldat, ce qui en tant que tel n'est pas censé être si terrible, sauf que je le rappelle, aujourd'hui, moi je suis journaliste français en Russie, et donc me retrouver avec un soldat dans un wagon pendant 24 heures, bah moi c'est ma crainte, parce que je peux être considéré comme un ennemi par ces soldats.
Donc toi tu n'étais pas dans le wagon restaurant, tu étais dans un compartiment. Est-ce que tu peux me donner un petit peu les participants à cette pièce de théâtre que tu vas me raconter ?
Je me retrouve avec deux psychologues qui partent en coloc à Saint-Pétersbourg. Donc eux, ils sont originaires de Rostov, dans le sud. Ils partent à Saint-Pétersbourg. Et je leur dis directement que je suis français, qu'on me prend souvent pour un ennemi, mais que je suis très sympathique. Je tente un peu la blague au début en me disant peut-être que cette fois-ci, je vais pouvoir parler avec des gens. Et eux me disent instantanément, mais bien sûr que vous n'êtes pas notre ennemi. Nous, on adore la France, on adore les Français. Allez, viens t'asseoir avec nous, on va discuter. Donc voilà, je me dis là, ça va peut-être être un peu moins long. On va enfin pouvoir discuter avec des gens sympathiques. Bon, c'était des gens cultivés. Je me suis même dit, sur le coup, j'ai parié sur le fait que dans les 2 heures qui suivaient, on allait parler de Navalny. Tu vois, je me suis dit, ce sont des libéraux. Je vais entendre des propos assez critiques du pouvoir. C'est pas du tout ce qui s'est passé finalement.
Alors explique.
Et donc je me rends compte qu'en fait ils me font la liste, mais vraiment exacte, de tout ce qui fait la propagande russe et la vision du monde par les Russes, la Russie, les médias d'État, Vladimir Poutine aujourd'hui. Et donc pendant 5 heures, c'est très très long. J'étais très fatigué. Mais la liste est passionnante parce que on comprend d'argument en argument comment la propagande russe a pu façonner leur vision du monde et comment des gens qui, je pense, bah, d'ailleurs, même l'ont montré, sont très ouverts à l'origine à l'étranger, aux Européens, aux Français, eh bien comment des gens sont finalement deviennent plus ou moins hostiles à toute cette situation. Alors, je cache pas que j'ai eu droit à la comparaison Macron-Napoléon comme ça m'arrive très souvent. Alors, c'était évidemment sur le sujet de l'éventuel envoi d'hommes en Ukraine, en tout cas sur ce que Emmanuel Macron affirme ou met sur la table régulièrement depuis quelques semaines. Et puis, évidemment, il y a un sujet qui revient tout le temps et moi ça me fascine parce que je ne comprends pas forcément pourquoi c'est si important pour Poutine, pourquoi c'est si important pour les Russes. Enfin, c'est quelque chose qui me dépasse un peu, mais on se retrouve toujours à parler des LGBT à un moment. Et en fait, je comprends qu'ils ne comprennent pas. Il y a zéro éducation à la sexualité, au LGBT, au respect des minorités en Russie. Donc c'est compréhensible qu'ils ne comprennent pas notre vision du monde, mais ce que je ne comprends pas, c'est la place que ça prend dans toute la rhétorique russe, parce que beaucoup de Russes, et ce couple que j'ai rencontré en était aussi convaincu, ce qui se jouerait en Ukraine, c'est une protection de leurs valeurs, et même ça va plus loin, généralement ça va... Enfin, eux voient ça comme une protection de nos valeurs européennes, c'est-à-dire qu'ils en sont presque à dire « on ira jusqu'à Paris » pour vous aider à protéger vos valeurs.
Oui, on n'est plus chez les nazis ukrainiens, on est vraiment sur valeurs traditionnelles.
C'est ça.
Un papa, une maman, pour être un peu caricatural.
C'est ça, mais...
Mais ils sont caricaturaux.
Oui, oui, de toute façon, à mon avis, c'est même ce qui montre que leur vision des choses est façonnée par la propagande, parce que la propagande, elle est caricaturale, et eux le sont aussi. Leurs arguments... généralement, vont pas bien loin, en fait. C'est une espèce de ressucé des arguments qu'on voit au quotidien dans les médias russes. Excuse-moi, je pense à ça, je relis mes notes en même temps. On a quand même, il faut le dire ici, eu un point Piotr Tolstoï sur BFM qui a été amené par ces gens. Ces gens de Rostov étaient au courant du fait que BFM avait interviewé Piotr Tolstoï. Et c'est ce qui, dans leur discussion, voilà, ça les amenait à expliquer qu'on avait des relations particulières entre la France et la Russie. Et en même temps, derrière, ils adhéraient totalement à l'idée qu'il faut que certains de leurs élus nous menacent pour que nous, on comprenne qu'on est dans le tort. Voilà, je voulais te le dire parce que je m'y attendais pas. Ça peut arriver parfois hein, que des... reportages généralement de télévision française atteignent les Russes. Évidemment, c'est quand c'est repris et instrumentalisé hein, par les médias locaux. Mais voilà, l'interview de Tolstoï, visiblement, a tourné aussi dans les médias russes.
Mais c'est incroyable parce qu'encore une fois, on est dans un immense pays et le fait de parler de train et de distance montre que vraiment, c'est très grand. Et pourtant, c'est totalement opaque par rapport à d'autres pays sur justement les valeurs, mais parce que ça traduit de là une méconnaissance incroyable de ce qui se passe en dehors de ce nouveau rideau de fer. C'est fou. Et tu m'as donné le pédigré un petit peu des deux personnes qui t'ont parlé. On n'est pas avec le Moudjik qui n'est jamais sorti de son village.
Non, c'est ça. Moi, c'est ce qui m'a un peu frappé. Alors, comme quoi, il ne faut pas s'arrêter à l'apparence, mais je m'attendais presque à tomber sur des opposants. Il y a eu un moment, en plus il y a un moment où des collègues à eux se sont joints à la discussion, il y a eu un moment où ils se sont mis à parler de Navalny, le néo-nazi Navalny, de Zelensky, le narcomane comme on dit en russe, parce que tu sais, la propagande russe explique au quotidien que Zelensky est un clown qui en gros fonctionne sous cocaïne, donc c'est quelque chose qui a beaucoup pris en Russie, et ce sont vraiment... C'est quelque part la partie la plus bête de toute la propagande russe, et je ne m'attendais pas à ce que ces gens utilisent ces arguments-là. Et surtout, ce qui m'étonne un peu, c'est une sorte de... pas de confusion, mais c'est un peu le bazar dans leur tête. Et donc, il y a des choses... il y a des arguments qui se mélangent, des arguments qui se contredisent, et puis il y a quelque chose en dessous. C'est-à-dire que moi, comme correspondant en Russie, j'essaye toujours dû partir du principe que mes interlocuteurs, au pire du pire, même si c'est pas comme ça qu'il faut l'expliquer, qu'il faut l'entendre, mais sont manipulés par la propagande, mais en soi, ce sont pas des gens méchants, ce sont des gens qui ont leur raison pour voir le monde de cette façon-là et pour penser de cette façon-là. Mais là, j'ai trouvé que ça allait plus loin parce que, voilà, ils m'expliquaient que voilà, ils sont gentils, qu'ils veulent aider les Ukrainiens en Ukraine, qu'ils sont pressés de pouvoir retrouver l'Ukraine pour retourner voir leur petit frère ukrainien. Et de l'autre côté, on avait quand même cette discussion sur... moi, je leur expliquais, mais vous savez, votre président, il nous explique en permanence que l'Ukraine n'existe pas, que c'est pas vraiment un pays, que la culture ukrainienne n'est pas. Et eux m'expliquaient, mais non, Poutine, il a jamais dit ça, retrouvez-moi les articles qu'il aurait écrits dans lesquels il dit ça. Alors, quand t'es dans un train de nuit, t'as pas Internet, donc c'était très compliqué de pouvoir faire du fact-checking, parce que chacun de notre côté, on essayait de télécharger des articles ou des choses qui prouvaient ce qu'on essayait d'expliquer. Donc ça ne fonctionnait pas. Et en fait, la discussion, on est arrivé quand même assez rapidement au fait que dans leur esprit... l'Ukraine existe, mais n'existe pas vraiment. Pour eux, la sortie de l'Ukraine de l'URSS était illégale. Et qu'en fait, dans leur esprit, ils vivent encore en URSS. Et tous les pays d'ex-URSS vivent encore en URSS. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que c'était visiblement ce qu'ils pensent au fond d'eux. Mais ils avaient beaucoup de mal à l'exprimer et à l'assumer, surtout. Et donc, c'est à la fin, j'étais même allé pousser.
Même après plusieurs heures de conversation, je comprends d'ailleurs que c'est une discussion animée. Et ça, c'est fantastique quand même. C'est-à-dire que tu n'as pas été agressé, et c'était pas sur un ton agressif. Eux-mêmes cherchaient à vérifier leur dire en allant sur Internet. Mais même après plusieurs heures de discussion, voilà, ça, il fallait vraiment insister pour avoir le fond de la pensée ou quasiment.
C'est ça, parce que c'est comme si, tu leur expliques qu'ils sont homophobes. Bon, ça, ils assument parce qu'ils s'en foutent. Ils voient pas vraiment le problème.
C'est pas une insulte pour eux.
Voilà, c'est pas une insulte. Tu leur expliques, par contre, qu'ils sont xénophobes. On en est arrivé, hein, à ce moment-là, durant notre discussion. Ah, là, c'est plus la même chose parce que les xénophobes, c'est en Ukraine, ce sont les nazis ukrainiens et on peut pas être au même niveau. Tu leur expliques qu'ils sont ultranationalistes. C'est pareil, ça ils peuvent pas l'assumer, alors ils vont te dire non, c'est pas le cas, ils vont te renvoyer vers les Ukrainiens, et leurs arguments auront tous valeur d'idéologie, enfin voilà, entre tous dans les caractéristiques d'un pays ultranationaliste, d'idées ultranationalistes. C'est assez troublant parce que au bout du compte, après 5 heures de discussion, ces Russes m'avaient sorti beaucoup d'horreurs finalement. Et je ne comprends pas pourquoi ils n'assument pas le fait que voilà, la Russie ne reconnaît pas l'Ukraine comme étant un pays. La Russie est impérialiste, la Russie est ultranationaliste. Il y a des mots qui ont tellement été utilisés à des fins politiques, je pense qu'on a du mal à les assumer, à les utiliser en Russie. On parlait des crimes de guerre en Ukraine, des crimes de guerre russes en Ukraine, de toutes ces choses-là, où en fait, eux, ils ont eu une explication complètement contraire à la réalité de ce qui s'est passé. Donc moi, je leur apporte mon point de vue sur les choses. Eux, ils me donnent leur position. Et en fait, là, ils mettent mon point de vue au même niveau que leur position, alors que... Parce qu'ils comprennent pas que nos médias ne fonctionnent pas de la même façon. Et le meilleur exemple, le plus triste, c'est à chaque fois le même. C'est à Boutcha, l'armée russe, donc qui était entrée dans cette ville ukrainienne au début de l'offensive, qui avait assassiné des dizaines et des dizaines de civils. Eux, ils m'ont répondu instantanément, mais Boutcha, c'est un spectacle d'Hollywood. Il s'est rien passé là-bas. Et moi, je leur explique. Vous savez, j'ai des confrères qui sont allés là-bas, ils ont compté les cadavres, ils ont vu les fosses communes, ils ont enquêté. Enfin, il y a eu un vrai travail difficile fait par ces journalistes. C'est impossible. Ils ne peuvent pas entendre ce genre de choses. Et donc, cette femme a fini par me traiter de propagandiste parce qu'elle ne pouvait pas imaginer que je fasse autre chose que de défendre le point de vue d'Emmanuel Macron, pour dire ça de cette façon-là. Donc je leur ai dit, bon, on va arrêter là, moi je vais retourner me coucher, et puis voilà, on se parlera demain matin. Et le lendemain matin, elle s'est excusée de m'avoir parlé de cette façon-là, et on s'est souhaité tous le meilleur en se quittant, et c'est comme ça que ça fonctionne en Russie, quoi. On peut avoir des discussions très intenses, mais à la fin, on s'apprécie toujours. Et il n'y avait pas d'alcool, je le précise, dans toute cette discussion.
Tu fais bien de le préciser, surtout pour un train de nuit. Oui, je te sens à la fois pessimiste et en même temps, il y a quelques espoirs au moins de discussion. On peut parler au moins de façon courtoise, même entre gens, je dirais pas ennemis, mais issus de pays non amicaux, je dirais, pour garder le vocabulaire un peu russe.
Il s'est passé quelque chose d'étonnant tout de même. Je disais qu'il n'y avait pas eu d'alcool, mais au moment où moi je suis remonté sur mon lit, moi j'étais au niveau supérieur, les deux, je pense, ont été aussi troublés que moi par cette discussion, et ils ont sorti une bouteille de cognac, et ils ont commencé à trinquer à la victoire. Alors on était dans une gare, donc il y avait du réseau, et ils ont mis Soloviev, le célèbre propagandiste, à fond sur leur téléphone. Et donc ils ont trinqué à la victoire en l'écoutant. Donc j'ai pris ça comme une sorte de provocation, et moi-même j'avais mis mes écouteurs pour leur montrer que j'étais pas dans le délire. Mais il y a eu visiblement une façon. Enfin, c'est dur de pas surinterpréter tout ce qu'on voit et tout ce qu'on entend, mais c'est comme si eux-mêmes avaient voulu se protéger de toute la discussion qu'on venait d'avoir et de se rassurer en réécoutant. Les arguments qui font qu'au quotidien, bah, ils arrivent à comprendre ce qui se passe en Ukraine, quoi. Parce que si moi je leur amène mes arguments et s'ils adhéraient une seconde aux arguments que je leur amène, en fait, plus rien n'a de sens dans ce qui se passe en Ukraine. Et comment vous voulez continuer à vivre si vous comprenez pas ce qui se passe, ou même pire, si vous considérez que peut-être que vous êtes un peu du mauvais côté de l'histoire. C'est très compliqué. Ouais, pour des psychologues, je les ai trouvés assez faciles à lire, finalement, même si j'ai peut-être un peu surinterprété. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup fait rire sur le coup qu'ils se mettent, que leur réflexe de fin de discussion soit de mettre Soloviev à fond et de sortir le cognac.
Tu leur as fait payer la séance? Non?
Non, mais y avait je l'ai pas dit, mais il y avait une quatrième personne dans ce wagon et une adolescente. Qui elle pendant toute n'a pas participé à la discussion, et pendant toute la discussion elle avait ses écouteurs. Je pense qu'elle était vraiment totalement agacée parce qu'on criait, hein, parfois c'était très très intense comme discussion, j'ai vu nos regards se sont croisés parce qu'elle était à mon niveau. J'ai vu qu'elle était aussi agacée par Soloviev. Et elle a pris la parole à un seul moment dans notre discussion, c'est quand on parlait des LGBT. Et les collègues de ces deux psychologues étaient là pour nous expliquer à quel point l'homosexualité c'était sale, à quel point voilà la religion ne pouvait pas permettre ça, voilà tout le mal qu'ils pensaient de l'homosexualité. Et elle a pris la parole pour essayer de les remettre un petit peu à leur place, en leur disant qu'en gros ils racontaient n'importe quoi et que il y avait beaucoup d'homosexuels en Russie qui souffraient de la situation. Voilà. Et donc elle a enlevé ses écouteurs, elle a dit ça et elle a remis ses écouteurs et on l'a plus entendu pendant tout le reste du voyage. Donc voilà, C'est assez étonnant, ça fait presque une pièce de théâtre à chaque fois,
totalement.
Parce que vous êtes vraiment dans ce petit compartiment fermé. On ferme les portes, on se crie dessus et on se quitte bons amis. C'est assez étonnant à chaque fois.
Eh bien, tu pourras écrire une pièce, il y a tout ce qu'il faut, l'unité de temps, l'unité de lieu. Un grand merci.
Exactement.
Paul, on fermait les yeux et on imaginait très très bien, tu nous as décrit ça avec beaucoup de couleurs, ce voyage dans la Russie avec ces gens qui sont vraiment imprimés par toute cette propagande, mais qui continue de discuter, parce qu'il y a eu une courtoisie et un sens du dialogue tout de même qui persiste en Russie. Merci beaucoup Paul, et à la semaine prochaine. Et d'ici là, vous pouvez évidemment retrouver tous les épisodes de notre podcast original sur bfmtv.com, BFM Radio et sur toutes les plateformes de streaming. À très bientôt.